Ensuitement, un ministre d'État, selon le journal L'Observateur de ce week-end, qui a fait pression sur l'administration pénitentiaire ou judiciaire en tout cas, pour que Baye Moussé Barbro et Semoudiou, ces deux gardes du corps du président Wade, soient libérés et bénéficient d'une liberté provisoire, même si on dit qu'ils sont sous contrôle judiciaire.
Oui, bonjour Babacar, bonjour mon grand frère Aliou. Vous savez, cette libération, arrestation de Malick Barbro ne m'a pas surpris. Ce serait un miracle d'ailleurs.
Ah oui.
Ce serait un miracle parce qu'il y a un réseau, je soupçonne l'existence d'un réseau occulte de commandement des juges qui renvoie à la nature et à la structure de notre système politique. Babacar, Malick Moussa Ba, je ne sais pas,
Barbro, oui,
a fait une interview dans un journal.
Le Quotidien.
Oui. Quand vous lisez l'interview, vous sentez quelqu'un qui nargue la justice, c'est-à-dire quelqu'un qui est très à l'aise. Dès que j'ai lu l'interview, je me suis rendu compte qu'on est en face de quelqu'un qui est à l'aise et qui ne se sent pas inquiété. On n'a pas vu dans l'histoire quelqu'un qui est arrêté, mis en prison, 2 heures de temps et libéré. Ça n'existe pas. Il y a l'existence d'un réseau.
Incarcération éclair, hein,
Une incarcération éclair et qui renvoie, comme Alun l'a dit, à une culture extrêmement grave. Les libéraux croient être intelligents, mais ils manquent d'intelligence. Je donne des exemples. Barthélémy Diaz a toujours été une personnalité politique controversée. Aujourd'hui, ils en ont fait le point de convergence de la lutte contre l'injustice. Malick Nouvelle-Sec n'était pas connu. Aujourd'hui, ils en ont fait un héros public. Tout le monde demande la libération de Malick Nouvelle-Sec. D'autres considèrent que Barthélémy Diaz est dans une situation où on sent qu'il y a l'existence en face de lui de personnes qui seraient impliquées dans une agression condamnable, mais qui sont dans une situation d'impunité. Tous les Sénégalais disent que s'il faudrait punir, il faut aussi punir les commanditaires. On identifie, on sent qui sont les commanditaires et on se retrouve dans une situation d'impunité. Il y a quelque chose qui est grave et regrettable au Sénégal. Wade a le drame de ne pas être informé. Wade a le drame d'être un homme isolé. Personne n'est venu lui dire que, monsieur le président, vous avez des relations obscures et révoltantes avec l'argent et le sang. Wade a des relations obscures avec l'argent. Il a des relations obscures avec le sang. Tout le monde sait qu'il y a des commanditaires qui sont identifiés, des indices précis et nets, mais ces gens-là semblent être à l'abri. Qu'il se détrompe. L'opinion publique sénégalaise a évolué et a changé. Ce sont les Sénégalais qui, dans leur exigence quotidienne, peuvent tout admettre.
Ce n'est pas la première fois que l'opinion est indignée par ces pratiques-là, mais toujours pas de réaction, comme si Jupiter Ndiaye.
Mais il y aura des réactions parce qu'on va vers des situations sensibles. On va vers des situations de prise de conscience où vous constatez qu'il y a une évolution positive, totale et radicale de l'opinion publique sénégalaise. De l'opinion publique sénégalaise. Les Sénégalais peuvent tout accepter, sauf l'injustice. Les Sénégalais, il y a des vices, des retards de la société politique que les Sénégalais n'acceptent pas. C'est l'injustice, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. C'est le vol, c'est le fait de vouloir protéger des personnes qui, d'abord, par leur histoire, leur comportement, ont des rapports un peu ignominieux avec la justice. Ce qui est tragique, et Idrissa Seck a raison de parler de grands bandits, c'est que le président Wade est entouré de nervures extrêmement dangereux. Le président Wade est entouré de personnes dont les noms sont cités dans le sang. Et il n'a éprouvé aucun gêne, aucun complexe d'être entouré par ces personnes-là dont les noms luttent avec le sang.
Encouragé sans doute par cette impunité que vous évoquez tous les deux. Aline Fall, Jean-Paul Diaz, le leader du BCG, parti politique, mais en même temps le père de Barthélémy Diaz, sa première réaction après ce rebondissement, cette arrestation, libération de Baye Moussé Barbro, Jean-Paul Diaz estime qu'il ne pouvait en être autrement parce que si on garde Bro en prison et que l'instruction se poursuive, ben ça mène tout droit au palais présidentiel.
Oui, enfin, s'il le dit, probablement il sait de quoi il parle, parce que d'abord Jean-Paul Diaz était avec eux. pas à n'importe quelle position. Je vous dois dire que Jean-Paul Diaz est en vérité le héros du combat du PDS à la fin des années 80. Et il était le directeur de publication du journal Sopi.
Oui.
Et il a donné énormément de fil à retordre au régime socialiste à l'époque. C'est quelqu'un qui est connu pour son courage, presque sa témérité et son sens de l'engagement. Ça, c'est clair. Et c'est quelqu'un également qui, par rapport au niveau de proximité avec lequel il a été avec Wade, est supposé et crédité d'une certaine connaissance de leur système, de leur manière de faire. Donc, s'il le dit, il sait de quoi il parle probablement. J'ajoute à cela maintenant que, effectivement, le journal Le Quotidien, au début de cette affaire, avait publié un papier et qui mettait en lumière la présence d'un certain M. K.
Oui.
Que Le Quotidien avait logé à la présidence.
Sans en bas, Jean-Paul Diaz a décortiqué et dit Karim Wade.
Donc, qui aurait été le bailleur de fonds de cette opération-là et qui aurait été en contact direct avec Bourreau. Si ce cas de figure est confirmé, évidemment, je comprends bien que Bourreau soit finalement une patate chaude, parce que si Bourreau se retrouve au cœur de la procédure et qu'il balance lui-même son commanditaire ou son bailleur, cela pourrait révéler des niveaux d'implication extraordinaires. Ça peut expliquer effectivement la prudence avec laquelle on manie le Bourreau là. Au-delà de ça, dans ce dossier, ce que moi je retiens depuis le début de cette affaire, c'est des manœuvres maladroites de construction d'une fausse réalité autour de cette affaire. Et j'en profite peut-être pour parler un peu à mes confrères des médias.
Oui.
Parce que j'ai le sentiment que le rôle des médias dans cette affaire n'est pas toujours des meilleurs.
Il y a de la manipulation.
Je veux dire par là, oui, je vais citer deux cas qui ont retenu mon intérêt. Par exemple, Bourreau, on nous a dit que c'est la section de recherche de la gendarmerie qui l'a arrêté. Si la gendarmerie l'arrête, c'est que la gendarmerie a pour bénéficier d'une délégation judiciaire et dans l'enquête. Or, l'introduction de la gendarmerie a été révélée par les médias, c'est toujours les médias qui sont revenus pour démentir cette information-là en des termes parfois élogieux, d'un niveau d'éloge qui ne convient pas tellement à la posture de recul et de hauteur d'un journaliste, sur le professionnalisme et les aptitudes, les compétences de la police qui font que le dossier a été confié à la sûreté urbaine. Donc, j'ai vu une sorte de conflit dans la presse sur cette question de quel est le service de police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Or, l'arrestation de Bourreau par la section de recherche, moi je suis revenu à Dakar très tard hier, je ne suis pas au courant des choses en dehors de ce que j'ai lu dans la presse, mais s'il est confirmé que Bourreau a été arrêté par la gendarmerie, ça veut dire qu'effectivement le désaveu de la police par le juge d'instruction qui a été évoqué à un moment donné par la presse est avéré.
Oui.
Bon, ça c'est de deux sur le l'arme qui a tué Diaga Diouf. On a fait passer énormément d'informations erronées
tenant
de l'intoxication et de la manipulation dans la presse. Dès le lendemain de l'arrestation de l'interpellation de Barthélémy alors qu'il était encore en garde à vue, on a voulu nous faire croire que l'autopsie a révélé que le M. Diouf, le défunt, a été tué par une arme de marque Taurus de calibre 9 mm. Je me suis donné la liberté de parler à certains confrères avec qui j'ai ce type de rapport, dont je crois vous-même, Babacar Fall, pour vous dire d'éviter de vous faire manipuler, parce qu'il n'est pas du domaine de l'autopsie de révéler l'arme et la munition qui ont tué. L'autopsie parle de genre de mort. Maintenant, si l'autopsie extrait une balle du corps du cadavre, c'est un autre niveau d'expertise. Ce n'est plus une expertise médicale, c'est une expertise balistique qui intervient, qui identifie la munition pour dire que cette munition est une munition de tel calibre. Et l'expertise peut identifier la catégorie d'armes qui peut tirer cette munition-là, mais ne peut en aucune manière dire, sur la base de la simple munition, que cette munition a été tirée par telle arme. Parce que vous avez des dizaines d'armes qui tirent du 9 mm. De fabrication de plusieurs nationalités.
Oui.
Donc, sur la simple base de la munition, aucune expertise balistique ne peut dire que c'est telle arme qui a tiré. Ce qui peut se faire, par contre, c'est qu'une fois qu'on a la munition, l'expert balistique peut se retrouver confronté à différentes armes suspectées d'avoir tiré la balle. Si l'arme qui a effectivement tiré la balle est dans le lot, l'expert peut l'identifier sur la base des empreintes des marques. Pour schématiser, je vous dirai que les canons et les marteaux des armes laissent toutes sur les balles et sur les douilles des empreintes qui font passer un peu à nos empreintes digitales. Mm-hmm. Donc si l'expert balistique se retrouve avec dans un lot d'armes 4-5 armes suspectées et que parmi ces 5 armes il y en a celle qui a tiré, à partir d'expérience il utilise toutes les armes pour tirer d'autres balles, examine les marques laissées sur les douilles et les munitions, sur cette base l'expert balistique peut dire voilà l'arme qui a tiré et je me fonde sur les empreintes, sur les marques laissées. Vous voyez. Mais si l'expert balistique se retrouve avec une vingtaine d'armes parmi lesquelles il y a l'arme qui a tué, il peut tirer une conclusion pour dire aucune de ces armes n'a tué, mais il ne peut pas dire que l'arme qui a tué est de telle marque ou de tel type. C'est pas mais possible. Alors, cette affaire, on y est revenu encore récemment. J'ai relu récemment dans la presse dire que la balle qui a tué a été tirée par un pistolet à barillet de tel calibre match. Je dis, tout cela relève de l'intoxication et de la manipulation en vue, à mon avis, de construire un coupable. Un coupable, vigilance. Ça ne se construit pas. Un coupable, on l'établit à partir de faits avérés. Oui. On me dit qu'on est en train de chercher l'arme dans la mer. Donc, je considère qu'à l'état actuel des choses, aucun élément du dossier ne permet d'identifier avec précision l'arme qui a tué. On peut juste se faire une idée de sa catégorie, on peut parler de son calibre. Maintenant que Barthélémy Diaz, qui a un permis de port d'armes, forcément la police connaît le type d'arme que détient Barthélémy Diaz. Oui. Moi-même j'ai un port d'armes et la police sait, connaît le type d'arme dont je suis détenteur. Et si je soupçonne qu'on parte de la connaissance qu'on a de l'arme de Barthélémy pour vouloir orienter l'opinion, braquer l'opinion sur cette arme en voulant fonder ces informations sur des rapports qui n'existent pas pour ultérieurement nous dire on savait déjà que c'est un touriste qui a tué. Or on vient de se rendre compte que le gars il a un touriste, donc c'est lui qui est le tueur. Je pense que les médias devraient éviter d'être utilisés dans un processus aussi
vicieux. Oui, Alifal, alors la question à Tamsir Jupiter Ndiaye, mais alors Barthélémy Diaz, ses avocats, son père sont en droit, ils l'ont déjà fait, de réclamer la libération de Barthélémy Diaz, par le parallélisme des formes ou tout simplement question de justice. Les commanditaires présumés ont été arrêtés, emprisonnés, relâchés, 2 heures d'incarcération. Aujourd'hui, est-ce que la justice, pour être juste, ne devrait pas aussi se pencher sur la question de la libération de Barthélémy Diaz, tout simplement?
Mais c'est ma conviction. Barthélémy Diaz est victime d'un piège et d'un pouvoir conspirateur. On peut tromper tout le monde d'une partie du temps. C'est ce que dit Abraham Lincoln. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ce que Alun Fall vient de développer rend compte de l'évolution et de la clarté qui anime l'esprit public sénégalais. Ils ne peuvent pas trop tromper certains citoyens. Barthélémy Diaz, qu'on l'accepte ou pas, c'est quelqu'un qui a été agressé dans son service institutionnel par des individus identifiés, par des commanditaires connus et qui veulent être sous le couvert de l'impunité. Ce n'est pas possible. La justice, c'est une certaine égalité de traitement. De la même manière qu'on doit libérer Barthélémy Diaz, on a vu dans le système Ward, par exemple, des gens tenir des propos beaucoup plus graves que les propos qui ont été tenus par Malick Noël Seck. Le pouvoir libéral croit être intelligent. Il y a une certaine série de forfaitures et d'impostures qui ont été tenues depuis un certain temps, qui ont marché. Mais ça ne peut plus marcher. Vous savez, il y a un danger pour la République. C'est que Abdoulaye Wade a toujours un comportement de vieux bandit. Il est entouré de bandits et il agit en bandit. Je vous renvoie
sa dernière
à l'interview. Je vous l'envoie
sa
à
dernière
l'interview
interview sur France 24.
Dans France, quand j'ai vu l'interview que Abdoulaye Wade a tenue à France 24 et à RFI, j'ai été choqué, bouleversé, traumatisé par les propos d'un vieil homme qui tient des propos devant lesquels reculerait Pol Pot, qui dit que à la guerre comme à la guerre, malgré son âge, malgré son histoire, malgré son parcours, on le laisse dire des énormités, tenir des propos qui choquent tout le monde. Comment le président de la République, qui dans la loi fondamentale est l'incarnation de l'unité nationale, peut-il continuer à être chef de clan? Comment, à la veille d'une élection aussi grave, le président de la République ne peut pas tenir un langage d'apaisement. Il tient un engagement d'embrasement. Il invite même ses propres militants à faire face à des situations qu'il devait condamner, contre lesquels il devait s'ériger. Mais malheureusement, on n'assiste pas à ça. Ce qu'on voit, c'est que, heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes politiques. J'ai vu le Forum civil qui s'est engagé dans cette lutte pour l'apaisement. Quand le président Wade, tout le monde constate, un, que c'est un vieil homme, c'est l'homme le plus âgé. C'est le seul homme dans l'histoire du monde qui se présente à une élection présidentielle après de 90 ans. Wade est traumatisé par son âge. Ce qui blesse Wade, c'est pas la constitutionnalité ou pas de son élection. C'est son âge et il en est conscient. C'est pas pour rien que Wade convoque la personnalité de Amadou Mokhtar Mbow en se comparant les âges. Parce qu'il se sent que,
Amadou Mokhtar Mbow... Il dit que Mbow est plus âgé que lui.
Attends, que Mbow soit plus âgé que lui. Mbow n'est même pas candidat à une élection locale. Mbow n'est pas candidat à une élection présidentielle. Mbow n'est pas candidat à une élection législative. Et pire, le nom de Amadou Mokhtar Mbow n'a jamais été convoqué dans un assassinat. Le nom de Amadou Mokhtar Mbow n'a jamais été convoqué dans une prédation des finances publiques. Wade a des problèmes psychologiques qu'il doit régler. Son nom est convoqué dans l'assassinat. Son nom est convoqué dans le sang. Son nom est convoqué dans la soustraction frauduleuse du bien des Sénégalais. Donc, s'il est gêné et complexé jusqu'à être obligé à vouloir se comporter et de se comparer à Amadou Mokhtar Mbow, c'est parce que lui-même, il se rend compte que ça ne va pas physiquement, moralement, psychologiquement. Wade commence à radoter. Il commence à être sini et on le laisse passer. Quand un candidat à une élection présidentielle confond le type de scrutin auquel il participe, quand un candidat
lapsus,
à une élection... Non, c'est pas un lapsus. Hein? Il radote. Depuis un certain temps, constatez une chose, depuis un certain temps, toutes les sorties que Wade fait se retournent contre lui à cause d'énormités qu'il dit. C'est l'âge. On ne peut pas vouloir tromper l'esprit. Un candidat à une élection présidentielle qui confond l'élection présidentielle. Un candidat à une élection présidentielle qui confond les noms et les responsabilités confiées à certains de ses ministres. Un candidat à une élection présidentielle qui tient des propos discourtois anti-républicains et non conformes à l'unité nationale. Quand un président tient cela, c'est parce qu'il y a problème. Malheureusement, comme Wade, c'est quelqu'un qui se considère comme diastole et systole du système politique national, il est le conseiller de ses propres conseillers, c'est le détenteur absolu de la vérité. Personne ne le regarde dans ses yeux. Je vous donne un exemple. Un candidat à une élection présidentielle qui a un directeur de campagne, Souleymane Dieng Ndiaye, qui fait un travail magnifique et qui dit que personne ne gère mon agenda de campagne. Ça veut dire qu'il ne se retrouve plus ou il ne sait plus où est-ce qu'il est. Son directeur de campagne fait un excellent travail, mais il ne se rend même pas compte que son directeur de campagne est en train de faire un excellent travail. Wade est en train de retrouver la rue qu'il a élue. C'est la première fois qu'on voit au Sénégal, en Afrique, un président inaugurer un centre de santé. C'est du jamais vu. D'habitude, le centre de santé, c'est le
secrétaire cabinet. C'est peut-être important pour lui, un centre de santé. Ça signifie énormément dans une localité.
C'est extrêmement grave pour la République. C'est pas pour rien que le porte-parole du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Modou Ngom, fait une sortie pour amener les journalistes à faire la différence entre les activités du président de la République en tant qu'institution et du secrétaire général national du PDS, parce qu'il y a une confusion. Depuis un certain temps, tous les actes que Wade pose, ce ne sont pas des actes qui renvoient à son statut de président de la République, ni à son statut d'incarnation de l'unité nationale, mais à son statut de vieux homme politique engagé dans une situation où chacun attend son départ. Babacar, vous savez quelle est la première défaite d'Abdoulaye Wade? Quelqu'un qui, depuis 1974, à mon avis, est présent à toutes les élections et qui, en 2012, voit son élection rejetée même dans son propre camp, c'est un échec.
Alors, vous évoquez tout cela, l'âge et tous les autres aspects liés à Abdoulaye Wade, à sa candidature. La question pour vous, Aliou Nfal, faut-il encore rêver, c'est raté le 31 décembre dernier, son discours de nouvel an, faut-il encore rêver qu'Abdoulaye Wade renonce à se représenter?
Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que Wade a atteint ce qu'on appelle le point du non-retour dans cette histoire de candidature. Parce que si Wade devrait renoncer aujourd'hui à se présenter, cela signifierait également qu'il accepte que son parti soit absent de l'élection présidentielle. C'est ça la vérité. Parce que
avant le délai fixé pour le dépôt
oui,
de candidature.
Oui, même avant le dépôt, il n'a rien fait pour préparer. Parce qu'une candidature à une élection présidentielle, ça se prépare. Une candidature se crédibilise. Il n'a rien fait pour favoriser la crédibilité d'une candidature de relève au sein du Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. Je pense qu'il y a énormément de personnes au sein du PDS qui auraient pu porter les couleurs du PDS et qui auraient pu aller affronter sans aucun complexe les autres candidats à l'élection présidentielle.
Et avec l'appareil du PDS, ça peut marcher.
Oui, mais bon, il n'en a pas travaillé à cela. Et je vous dis que si aujourd'hui Abdoulaye Wade décidait de renoncer à être candidat, la conséquence serait de fait que son parti serait absent, parce que même si son parti s'attelle à présenter quelqu'un, ce serait une candidature absolument qui ne pourrait en aucune manière avoir les mêmes chances en termes de crédibilité, entre autres, au sein de l'opinion, oui. Les mêmes chances que les grosses candidatures, parce que l'élection de cette année a cette spécificité
oui.
De sortir du cadre bipolaire traditionnel qui a toujours caractérisé nos élections présidentielles, pour nous présenter une élection ouverte où nous avons, en dehors même du candidat du pouvoir, nous avons quatre grosses candidatures à des niveaux de crédibilité peut-être différentes, mais qui tous sont susceptibles de pouvoir en définitive être élus au terme du scrutin.
Alors, ce ne sera pas sans doute, s'il devait y avoir plan B pour Abdoulaye Wade, sans doute pas son fils, Karim Wade, dans cette semaine, il a vu rouge à Thiès, hué par des militants, de jeunes militants de son parti, le PDS. Ce vendredi, dans la banlieue de Dakar, du côté de Medina Gonas, du CM Canada, de Guédiou et tout ça, hué à nouveau. Tamsir Jupiter Ndiaye, Karim Wade, impopulaire à jamais.
Non, le problème, c'est que je l'ai toujours dit, mon problème et le problème des Sénégalais, c'est pas Karim. Si Abdoulaye Wade n'était pas président, est-ce qu'on verrait Karim là où il est? Le problème du Sénégal, c'est pas Karim Wade. Karim veut le pouvoir, il est en train de se battre pour le pouvoir. Mais le problème, c'est celui qui veut lui transmettre. Le problème du Sénégal, c'est Abdoulaye Wade. Quand les gens s'attaquent à Karim Wade ou à Paté ou à Demba, j'en rigole. On est dans un système présidentiel où le président a le monopole de tous les pouvoirs politiques. Vous savez pourquoi la candidature de Wade est dangereuse? Supposons que la candidature de Wade soit acceptée. Supposons que Wade passe. Mais s'il passe, il va transmettre le pouvoir à quelqu'un que les Sénégalais n'ont pas choisi. Il n'existe pas au monde quelqu'un qui reste au pouvoir jusqu'à 97 ans. Ça n'existe pas. Wade n'est pas candidat pour lui. Il avait annoncé son retrait. Wade est obligé d'être candidat d'abord, premièrement, pour sécuriser son parti. Deuxièmement, pour trouver les moyens de sécuriser les prédateurs qui sont dans le système. Pourquoi Serigne Mbacké Ndiaye, le tard venu au PDS, dit publiquement que si on perd le pouvoir, on sera tous mis en prison? Parce que les libéraux savent que si on fait un audit du pouvoir libéral, on trouverait des situations inimaginables. Wade a commis l'erreur en voulant solder des comptes. Quand Wade est arrivé au pouvoir, on a procédé à des audits. On a mis pendant 11 mois Abdou Aziz Tall en prison. On l'a libéré avec comme argument les auditeurs étaient zélés. On a mis en prison Mbaye Diouf parce qu'on voulait qu'il passe au PDS. On a mis en prison d'autres personnes qui, comme Ousmane le Jeune, sont morts en prison. Vous pensez que les Sénégalais vont croiser le bras et que si Wade perd le pouvoir, son régime ne sera pas audité? C'est sous le régime de Wade qu'on a vu des cuillères achetées à 40 000 francs, non? CFA? Et quoi d'autre encore?
Ça devient dangereux, ils vont s'accrocher au pouvoir.
C'est justement cela. Wade, c'est quelqu'un, je le dis publiquement.
Par tous les moyens, sans doute.
Attendez, Wade va rester au pouvoir advienne que pourra. Dans son discours à la nation, qui était beaucoup plus un soliloque qu'un discours, Wade a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. On ne forme un gouvernement d'union nationale que dans une situation de crise politique qui provoque un blocage institutionnel. Cela veut dire que Wade est quelqu'un qui est prêt à tuer, à tout faire pour rester au pouvoir, advienne que pourra. Après, il trouve une situation
marcher sur les cadavres
pour mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Quand Wade dit écoutez, moi je ne vais pas marcher au pouvoir pour accéder au pouvoir, c'est pas vrai.
Marcher sur les cadavres.
On a tué Maître Babacar Seye, on l'a convoqué. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a amnestisé, qui a libéré et qui a indemnisé. Wade dit que je ne vais pas marcher sur des pouvoirs pour accéder
des cadavres
pour accéder au pouvoir. Mais c'est à la fin de ce meeting qu'il y a eu 16 policiers qui ont été tués sous le pouvoir du
centenaire. 16 février 94.
Il y a une chose, et j'aurais aimé que les sociologues, les politistes et les historiens essayent de réfléchir sur ça. Les rapports que Abdoulaye Wade a avec l'argent et le sang. Il faut qu'on réfléchisse.
Vous parlerez comme Tamsir Jupiter-Niay à l'une fois que Wade va s'accrocher au pouvoir par tous les moyens.
Ah oui, bien sûr, il l'a défendu, il l'a révélé. En fait, c'est ce qu'il est en train de révéler. Et bon, il y a un problème juridique autour de sa candidature. Il y a un problème humain, j'allais dire, humain, parce que, comme l'a dit Tamsir, je pense que tous ceux qui observent le président Wade depuis un certain temps se font de plus en plus à l'idée qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens.
Physiques,
particulièrement. Donc, je pense effectivement que Wade a vraiment dépassé, au-delà même du cas juridique, Wade a dépassé l'âge de la retraite. Politique. Si malgré cela s'il tient encore à être candidat, une candidature aussi controversée, je crois qu'il n'y a pas de révélateur plus éloquent de sa détermination à s'accrocher au pouvoir jusqu'au bout.
Alors, vous suivez Remy Ménage, nous recevons Tamsir Jupiter-Niay et Ali Wounfal. La suite tout de suite avec Ali Wounfal, vous l'avez évoqué un peu, les adversaires d'Abdoulaye Wade. Tous se sont mis en exergue cette semaine avec des congrès d'investiture où il y avait foule. Le bal a été ouvert par Macky Sall il y a quelques petites semaines. Quel effet recherché en organisant ces congrès d'investiture dans de grands espaces, démonstration de force tout simplement, ou ça peut avoir un impact sur l'électorat, Tamsir?
Oui, ça peut avoir un impact, mais je voudrais également inviter les leaders, les candidats à l'élection présidentielle à concevoir, à comprendre que ce ne sont pas les foules qui font les suffrages électoraux.
Non.
On a vu en 2007 des gens qui ont beaucoup mobilisé et qui n'ont même pas été deuxièmes.
Abdou Diouf en 2000 mobilisait bien.
Abdou Diouf a mobilisé avec beaucoup de bêtises. Vous vous souvenez de ce fameux tableau de Abdou Diouf avec une aubergine
et le Diakhatou.
Le Diakhatou et nos fruits mûrs. Il parle de fruits et il tient un légume. Ça, ce sont des bêtises de communication politique. Mais en vérité, c'est que, premièrement, ce que je constate est que tous les candidats s'annoncent président. Ils ont raison. On ne va pas dans une guerre politique. En étant un défaitiste, on va dans une bataille politique avec une mentalité de gagner. Alun Fall l'a dit, le jeu politique va se jouer autour de certains ténors du jeu politique. Nous avons vu des discours, et c'est ce que j'apprécie le plus. Moi, personnellement, je suis peut-être différent des autres. Moi, je regarde les gens à travers les programmes qu'ils proposent et non à travers les foules qu'ils mobilisent. Ce qui m'intéresse, c'est pas les foules. C'est qu'est-ce qu'ils offrent aux Sénégalais. On a entendu un discours magnifique de Moustapha Niass offrir une refondation de la République. Macky Sall a fait depuis certains temps, voilà quelqu'un qui je ne suis pas son militant, mais ce qu'on constate, c'est qu'il ne personnalise pas le débat politique. Macky Sall parle sous forme d'idées, d'orientation et de programmes. C'est ce que Moustapha Niass fait également. Il dit c'est qu'il parle trop d'argent, il est magnifique, c'est un combattant, mais à travers ces discours, on évoque trop l'argent. Il faut qu'on arrête d'évoquer trop l'argent et les milliards. Ce que je constate...
La paternité avec Abdoulaye Wade, sans doute.
Mais peut-être que Ousmane Tanordi a raison de parler de faire du Wade sans Wade. Mais puisque nous voulons changer le changement, alterner l'alternance, il faut changer le discours et les orientations politiques. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où ce que nous voulons, c'est d'abord un renouvellement systématique du personnel politique. S'il y a certaines erreurs qui sont commises, c'est parce que ce sont les mêmes méthodes politiques qui reviennent. Qu'est-ce qui reste au PDS? Le PDS n'existe plus. Depuis quand on voit les structures organisées du PDS se réunir? Le PDS, c'est quoi? C'est le bureau politique du PS et le comité central du PS qui a transhumé et qui est venu chasser les libéraux authentiques et prendre en otage le PDS. Quand Abdoulaye Wade et ton gouvernement assis, entouré de qui? Djiboké, Abdoulaye Makhtar Diop, Alassane Diallo Ndiaye, Ngoune Ndiaye, Sadio Ndiaye, où est le PDS? Vous allez dans l'opposition, vous voyez les libéraux authentiques. Il faut que l'on accepte une chose, c'est que le PDS est mort. Et que la tendance risque de continuer.
Le PDS va disparaître avec Abdoulaye Wade définitivement, sans doute.
Le PDS, je l'ai dit et je le répète, le PDS va finir comme le PAI. On dit que c'est un parti libéral, mais dans lequel on voit des trotskistes, des communistes, des sociodémocrates, des néolibéraux. On voit du n'importe quoi, comme de la sauce de mousse pour gagner. On y voit du n'importe quoi. C'est pas un parti structuré. C'est pas un parti organisé. Ce que Ward est en train de faire, c'est d'être en train de tuer, sans le savoir, une certaine génération politique. Je pose une question. Tous ces transhumants qui ont rejoint Ward, qui ont passé toute leur vie à lutter pour que Ward ne soit pas élu, et qui sont aujourd'hui avec Ward, si Ward n'est plus au pouvoir, que deviennent, que vont-ils devenir? Il faut que les gens aient une question, un sentiment d'honneur. Ali, je connais un transhumant dont je connais le fils. J'ai présenté le fils à un ami comme étant le fils de tel. À la fin, le fils me dit, ne me présente plus comme le fils de tel, parce qu'il a honte du parcours politique tortueux de son grand, de son père. Il faut que les gens en parlent.
Alors, question à Aline Fall. On a vu Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niass, qui d'autres cette semaine faire congrès. Ils sont nombreux, en tout cas ces derniers jours, Cheikh Mbadié, tout le monde. Est-ce que ces foules nombreuses à ces congrès d'investiture vont ériger une sorte de loi du nombre qui va peser sur les urnes le 26 février? Ça ne signifie rien ou
si, bon, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, l'équation arithmétique foule égale électorat, c'est évidemment une équation totalement erronée, ça c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces foules quand même sont un instrument d'influence. Je veux dire par là que c'est pas le seul instrument d'influence, c'est pas le seul déterminant du comportement électoral de l'opinion, mais c'est un des instruments qui sont susceptibles, identifiés en tout cas, hein, par les recherches, par les spécialistes, comme étant parmi les déterminants des comportements électoraux. Parce qu'en vérité, il faut reposer la problématique électorale qui, aux yeux du candidat, se présente sous trois dimensions, toutes renvoyant en l'influence. Le candidat aux élections, il a des partisans qui sont avec lui, qu'il veut absolument maintenir avec lui, et conforter donc dans leur choix. Il a en face de lui des opposants irréductibles qui ne seront jamais avec lui jusqu'à la fin des temps. Ceux-là, l'objectif stratégique n'est pas de les conquérir, mais de les déstabiliser. Et dans leur choix, dans leur position, de les fragiliser, et moralement, psychologiquement, dans leur option, qui de toute façon nous est hostile. Et hostile au candidat, je veux dire. Et il y a enfin, entre les deux pôles, il y a une masse, souvent majoritaire, de gens qui ne sont pas des partisans, et dont les choix sont fluctuants en fonction des aléas politiques. Ceux-là, ils sont déterminés dans leur choix par un certain nombre de facteurs. Et justement, quand un candidat à des élections fait une mobilisation monstre dans le contexte sénégalais, il envoie trois messages de communication à effet d'influence. Un message à ses partisans pour les conforter sur leur choix, les requinquer, les regonfler pour leur dire, vous avez fait le bon choix, nous sommes les plus forts. Et le sentiment pour ses partisans, effectivement, que leur porte-étendard est le plus fort, est de nature à renforcer leur ancrage dans ce camp-là. Devant, en face, les autres, les opposants radicaux irréductibles, les faire douter, les amener à se dire qu'au fond, c'est une bataille perdue d'avance. Ce gars, il est tellement fort qu'on ne peut pas le battre. Et la manifestation pratique de cet effet pourrait être une baisse d'ardeur, un manque d'engouement de l'opposant irréductible. Et même le jour du vote, il suffit qu'il se retrouve confronté face à certaines contraintes majeures. Il se dit, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Nous avons perdu d'avance. Il ne va pas voter. Donc, l'adversaire perd une voix. Et maintenant, le gros des troupes, ce que j'appelle les non-partisans, qui se déterminent au fil du temps, qui ont une construction progressive et évolutive de leur décision électorale, ceux-là, on tente de les influencer en les faisant basculer dans son camp. Il y en a parmi ceux-là dont le choix est tributaire aussi du critère espoir. ils choisissent en définitive celui qu'ils espèrent le mieux placé pour gagner. Absolument. Donc vous démontrez à ces gens
de voter utile. Hein.
Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc voilà un peu le sens
de ces mobilisations. À côté de ces profils politiques, ces candidatures avec des profils politiques classiques, il y a d'autres qui émergent. Céline Mansour Sidiami, Youssou N'Dour, votre commentaire sur ces profils, Tamsir Jupiter.
Il fera mal. Mais je voudrais conforter aussi. Je voudrais aussi conforter.
Oui, très rapidement.
Il a parfaitement raison. C'est qu'au-delà du vote affectif, du vote programmatique au Sénégal, vous avez raison, il y a aussi le vote, au-delà du foule, il y a le vote affectif. Le Sénégalais aime la personne, d'abord. Que cette personne soit quelqu'un qui soit en phase avec les intérêts nationaux. L'éloquence, comme disait le philosophe Alain, est politique. Le Sénégalais aime l'homme éloquent, il aime l'homme qui a le sens des relations humaines et le sens de la société. C'est extrêmement important. C'est ce qui a fait la force des autres. Maintenant, il y a d'autres émergences que certains ne prennent pas en compte. Moi, personnellement, je les prends en compte. J'ai vu des citoyens...
Youssou N'Dour, c'est sérieux?
Mais absolument. Il faut arrêter de voir en Youssou N'Dour le chanteur qui vient venir dans la société politique. Premièrement, Youssou N'Dour est un citoyen sénégalais. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a un certain discours. Je le suis dans ses propos. Et son discours influence certains citoyens parce que tous les Sénégalais savent pour contre qui voter. Mais ils n'ont pas encore décidé pour qui voter. Il y a ceux qui ont déjà décidé pour qui voter. Il y a ceux qui n'ont pas décidé qu'ils vont s'amuser à voter pour n'importe qui. Qu'on le veuille ou non, celui Mansour Sidiami, Ibrahim Fall, Youssou N'Dour, Moussa Touré, etc. Ils sont nombreux. Ce sont des gens qui, par A ou B, vont avoir des voix. Que ce soit une voix, que ce soit deux voix. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces voix-là? J'ai vu une interview de Youssou N'Dour où je vois un homme politique dangereux. Youssou N'Dour ne va pas à l'élection comme quelqu'un qui perd. Youssou N'Dour va à l'élection avec une mentalité de gagnant. Il considère qu'il n'y aura même pas de deuxième tour et que lui, il passe dès le premier tour. Les gens, vous l'avez expliqué merveilleusement tout à l'heure, les gens vont s'interroger sur quoi ils se basent. L'autre élément est que je constate le discours de certaines personnalités civiles. Youssou N'Dour pose des problèmes de développement, il est en train de poser des problèmes d'emploi, il est en train de poser des problèmes d'institution. Il faut que les gens ne voient pas Youssou N'Dour, qu'ils ne regardent pas Youssou N'Dour, mais qu'ils écoutent Youssou N'Dour. Il ne faut pas que les gens ne voient pas qu'ils voient Mansour Sidiami. Il faut qu'il écoute Mansour Sidiami. Il faut qu'il écoute le discours de Mansour Sidiami. Il faut qu'il écoute le discours de Cheikh Tidiane Gadio et des autres personnalités politiques. Parce que l'évolution politique et sociale est telle que les citoyens sénégalais, au-delà de la mobilisation des foules, au-delà de cette influence, de ces instruments d'influence dont parle Alioune Fall, il y a également un autre fait. C'est que quand quelqu'un comme Youssou N'Dour critique Wade, il peut détourner quelqu'un qui décidait de voter pour Wade, d'aller voter même pas pour Youssou N'Dour, mais pour quelqu'un d'autre. Youssou N'Dour est en train de dévier les voix de Wade vers d'autres horizons, vers lui ou vers d'autres. Mais il est en train de diviner Wade dans son propre discours. Qui s'attendait à ce que Youssou N'Dour prenne ces décisions-là? Demain, un footballeur peut venir, Elhadj Diouf, pour avoir le discours. Ensuite, il faut que les Sénégalais arrêtent leur hypocrisie. Qui anime le mouvement Yanamar? Ce n'est pas des musiciens.
Des rappeurs.
Mais quand des rappeurs animent un mouvement
aussi puissant,
qui devient un slogan dans lequel les gens se trouvent, pourquoi Youssou N'Dour, qui est aussi balakhir, ne peut pas aussi annoncer son mouvement? C'est malhonnête finalement ce que les gens font.
Très rapidement, Youssou N'Dour se réunit sur ses Jamil.
Oui, vous savez, moi j'ai toujours été pour une appropriation de la question de gouvernance et de gestion des affaires publiques par le citoyen. Quand je parle du citoyen, je considère l'humain dans son environnement républicain et à départir de tout facteur susceptible de le catégoriser et d'altérer cette
par la discrimination.
Voilà, donc quand on considère l'engagement partisan, le citoyen est un citoyen plus quelque chose. Il est citoyen, il est partisan, et ce plus quelque chose-là peut être un facteur d'amélioration de la citoyenneté, mais dans bien des cas, malheureusement, c'est un facteur altérant. C'est un facteur altérant parce que ça crée une identité nouvelle au sein de l'identité citoyenne. Et dans bien des cas, cette identité nouvelle-là se retrouve à gérer des intérêts qui sont parfois en conflit ou en contradiction avec les intérêts de la collectivité nationale. Et ce qu'on a observé par expérience, c'est que ce sont ces intérêts identitaires spécifiques qui sont mis en avant par l'individu sur les intérêts liés à la citoyenneté, je veux dire à la collectivité nationale. De ce point de vue-là, donc moi j'ai toujours théorisé la réhabilitation du citoyen pur dans ce qui se fait aujourd'hui dans l'espace public. Donc si je vois effectivement des gens à qui on ne connaît pas d'engagement partisan, Mansour Sidjamil, Youssou N'Dour, Moussa Touré ou un autre, Amsatou Sow Sidibé, aspirer à jouer un rôle de premier plan dans la conduite des affaires de ce pays, je ne peux que m'en féliciter.
C'est rassurant. Oui. Ça, c'est ces images-là, exemple un Baratal qu'on voit prendre la parole dans un meeting politique, qui le recrue. Alors, très rapidement, un peu plus de 5 minutes qui nous restent, on parle d'un sujet tout aussi important, la Casamance. Des développements cette semaine, la Croix-Rouge qui a rendu visite à ces soldats prise en otage par des rebelles. Prise d'otage, c'est la nouveauté dans cette crise casamançaise. Est-ce que, à une fois, vous êtes un spécialiste de cette question-là, je reviens à vous tout à l'heure, mais Tamsir Jupiter Ndiaye, prise d'otage, est-ce que c'est vraiment du MFDC ce qu'on voit? Ça ressemble beaucoup à des techniques d'organisation terroriste connues.
Premièrement, il y a certains qui parlent de prise d'otage, j'ai entendu d'autres parler de prisonniers de guerre. Ce que je constate à ce niveau, Aliou Fall connaît mieux la situation de la Casamance, c'est que Wade a échoué là-dedans. Premièrement, la Casamance n'existe plus juridiquement depuis la réforme territoriale de 1996. J'ai été peiné d'entendre le président dire la Casamance comme s'il dit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou la Mauritanie.
Ce qui existe, une imprudence.
C'est une imprudence. Ce qui existe, ce sont les régions de Ginachor et de Kolda. Deuxièmement, je n'ai pas compris.
Et le Sédou maintenant.
Je n'ai pas compris. Et le Sédou. Je n'ai pas compris pourquoi le président de la République lance un appel à travers un message solennel, officiel, à des rebelles radicaux.
Il cite les noms des chefs rebelles.
Nommément, c'est comme s'il leur reconnaît une certaine légitimité.
Ça les renforce.
Troisièmement, les rebelles, d'après certaines informations, utilisent des armes provenant de pays arabes. Il faut qu'on soit prudent pour qu'il n'y ait pas une sorte de contact, de relation entre le MFDC et l'ACMI. C'est-à-dire le.
C'est pour ça que je parlais de tactique de prise d'otage, c'est nouveau ça.
Je le crains fort parce que on sent, parce que dans une bataille, les gens sont obligés de s'ouvrir. Est-ce que le MFDC n'a pas de relation avec l'ACMI ou ne va pas.
Al-Qaïda au Maghreb
islamique. Al-Qaïda au Maghreb arabe, est-ce qu'il ne va pas avoir des relations avec ces gens-là, puisqu'ils ont déjà d'armes provenant des pays arabes. Ensuite, je pense que le président Wade doit reconnaître sa défaite, essayer de reprendre sa position. Moustapha Niass l'a expliqué pourquoi il y a eu une certaine situation de faiblesse des forces armées en Casamance. Peut-être c'est un manque de traitement, c'est une maltraitance. Ce que je constate, c'est que Wade donne beaucoup plus une certaine importance à ceux qui peuvent participer au renforcement de son pouvoir qu'à ceux qui peuvent participer au renforcement de l'unité territoriale.
La Casamance, ce n'est pas une priorité pour lui. C'est en somme ce que vous dites. Aliou Fall, MFDC, Al-Qaïda, le lien peut-il exister?
Oui, ce n'est pas exclu, hein, parce que d'abord, je crois que les conditions géostratégiques existent parfois favorables à cela. Après la chute de Kadhafi, je crois que c'était ici chez vous que j'avais émis cette idée, parce que Kadhafi avait enrôlé des légionnaires, ou bien si vous préférez des mercenaires, en tout cas des colonnes de combattants qui venaient de mouvements armés de la sous-région, en particulier les mouvements Touareg. Du Mali et du Niger, mais également d'autres individus. Et des observateurs ont relevé des mouvements donc de retour de ces troupes de la Libye vers notre voisinage immédiat, en particulier au Niger et au Mali, avec des arsenaux impressionnants. L'accent a été mis sur ce point-là à l'époque. Donc, que ces gens-là parviennent à faire jonction avec les rebelles du MFDC et leur fassent bénéficié aussi bien de leur expérience de la guerre que de leur équipement. C'est un cas de figure à ne pas exclure. En tout état de cause, je termine par là où je reviens sur là où Tamsir a terminé en disant que le pouvoir se soucie davantage de son renforcement en tant que camp gouvernant que du renforcement de l'unité nationale. Je pense effectivement que ce qui se passe en Casamance ces derniers jours révèle une réalité à la fois triste et humiliante. Et également établit la faillite d'un régime, une faillite hautement périlleuse pour cet État-là. Parce que, en vérité, malgré ces revers enchaînés subis par l'armée nationale en Casamance, enfin les forces de sécurité et de défense de manière générale, parce qu'en dehors de l'armée, il y a la
gendarmerie,
une position a été attaquée dans une agglomération, en plus, c'est pas en campagne.
À Finiam.
Je dis, tout ça, en vérité, on ne sent pas, au niveau de l'État, la posture qui convenait dans cette situation-là.
Même pas de commentaire, il n'y a pas encore de commentaire officiel sur ce qui s'est passé.
Le seul souci des gens qui tiennent l'État, c'est de se pérenniser au pouvoir, au point que les urgences nationales sont négligées, et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, en tant que Sénégalais, je me sens...
Vous l'aurez constaté, il n'y a même pas de commentaire, de gros commentaire officiel sur cette situation.
Il y a aussi la question, évidemment, rapidement lexicale, hein. Nous parlons d'otages, nous on peut parler d'otages peut-être, mais il est clair que les gens du MFDC sont fondés à parler de prisonniers de guerre, parce qu'eux ils se considèrent en guerre, ils mènent une guerre sur le terrain, ils ont capturé des éléments, des troupes du camp qu'ils considèrent comme le camp ennemi. Je pense que effectivement c'est dans le cadre des pratiques de guerre, d'autant plus que j'ai lu tout à l'heure que la Croix-Rouge a pu rencontrer ces gens et considère que leur traitement est assez conforme à ce qui est prévu par les lois sur la guerre,
par les conventions internationales sur la guerre justement. Merci, 50 minutes de débat, c'était Rémi Ménage. Merci à nos invités, Aliou Nfal, journaliste consultant,